Alors maintenant, on laisse la place à Pierre Génard, punkiser son environnement immédiat, l'exemple du jardin punk. Je te laisse du coup embrayer Pierre.
Donc bonjour, je voulais dire merci à Solveig, Luc, Hyacinthe et toute l'équipe du PIND ou du PIND. On ne sait pas comment on dit, mais ça c'est punk aussi, pour ces journées. Voilà. Donc moi je vais essayer de vous parler du jardin punk. Donc c'est un petit livre qui s'appelle qui est d'abord sorti en poche pour ensuite sortir en plus grand. Et c'est un livre de Éric Lenoir qui est jardinier paysagiste et qui s'appelle donc Petit traité du jardin punk et ensuite Le grand traité du jardin punk. Et la première fois que j'ai entendu parler du jardin punk, c'est une idée qui m'a séduit parce que j'aimais le jardin et j'aimais le punk et je me suis dit un combo des deux ça va le faire. Et puis j'avais tout de suite en tête les imageries poétiques du jardin punk, les herbes folles dans le jardin, le matériel de récupération, c'est dur à définir, c'est ce qu'on va essayer de faire, toute une espèce d'imagerie punk. Et ensuite, j'ai pas été choqué par la juxtaposition des termes jardin et punk, parce que il faut bien le dire, en ayant grandi dans un village de 200 habitants, et même si je le savais pas, parce que je me croyais urbain en sortant dans les bars de Laon, ma ville picarde natale, et ben en fait j'étais un punk de campagne. Du coup, j'étais plutôt habitué à la forêt, etc. Et ça me choquait pas du tout de rapprocher le jardin et le punk. Mais quand même un peu surpris. D'abord parce que on parlait de quelque chose qui avait a priori rien à voir avec un mouvement musical. Et on vient de le dire, même si c'est difficilement définissable ou datable, le punk, ça reste, oui, effectivement, une étiquette adossée à un genre musical. Du coup, qu'est-ce que ça avait à faire avec le jardin? D'autant que le jardin, ça faisait pas très punk en fin de compte. Tout ce vert, tout ce marron de la terre, le clapotis de l'eau, les fleurs, ça faisait pas punk. Du coup, je me suis dit, en fait, il y a de quoi réfléchir. Et du coup, je me suis demandé comment on pouvait faire. Est-ce qu'il existait un ensemble normé de choses à reproduire pour faire de quelque chose de pas punk, quelque chose de punk? Comment, et est-ce que c'était possible, est-ce que c'était souhaitable, en fin de compte, de punkiser? J'ai repris le terme sur la présentation et il est présent dans le livre aussi. Avec des copains, on dit aussi punkifié. Voilà, ça fait un peu fortifié aussi, mon punkifié, punkisé. On peut choisir ou pas choisir. Donc comment on peut punkiser quelque chose? Et en général, son environnement immédiat. On en parlait tout à l'heure, on entend parler de ce jardin punk, de la cuisine punk, tout pourrait devenir punk. Du coup, c'est savoir, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a un chemin pour ça? Et donc je vous propose à travers ce livre d'abord de voir ce qui est punk au jardin punk, ce qui est d'évidence punk entre guillemets, ce qui dans nos têtes correspond aux normes du punk. Ensuite, dans un deuxième temps, voir ce qui semble moins correspondre, pour ensuite bien sûr essayer de voir au-delà des normes et des conventions si le punk, évidemment, c'est pas plutôt cette démarche, cette attitude, un caractère, une éthique, comme Mireille l'a commencé à dire ce matin. Voilà. Donc, d'abord, qu'est-ce qui est punk au jardin punk? D'abord, on peut commencer par voir le contraire. Qu'est-ce qui est un jardin pas punk? Et en fait, un jardin pas punk, on y arrive très bien à le voir. C'est un jardin où les arbres, ils sont taillés en carré, alignés dans des perspectives construites et dessinées par un plan. C'est en plus soit un jardin à la française ou à l'anglaise de château ou un jardin privé de quelqu'un qu'on imagine entretenir un jardin de façon pas punk. Du coup, Éric Lenoir, il propose de dire que le jardin punk, il doit être jardin punk, il doit être pas cher à faire, facile à faire, pas cher à entretenir et facile à entretenir. En autonomie, arriver le plus possible par l'autonomie. Parce que lui, il dit le punk est fauché, le punk est libertaire, le punk se joue des normes et des lois, et le punk survit. Du coup, grosso modo, on semble avoir ici une traduction du DIY en jardinage. Et ça commence donc par ne pas reproduire ce qui a été fait. ne pas reproduire les normes existantes, celles desquelles on hérite, c'est-à-dire ne pas arriver sur un endroit et arracher tout ce qui existe déjà sans avoir regardé, c'est-à-dire retourner systématiquement la terre, c'est-à-dire aussi planter en massif qu'il faut désherber. Ne pas réfléchir au lien entre les plantes qu'on utilise et la terre sur laquelle on arrive. C'est-à-dire aller au magasin de jardinage, payer une blinde et planter des choses tout faites. C'est d'abord ça. C'est d'abord une remise en question, le jardin punk. Et ça veut dire donc observer ce qui existe déjà, contempler les possibilités, s'affranchir des règles. Il y a évidemment, on l'a déjà dit, une transgression. S'affranchir de ce qui existe déjà et réfléchir à ce qui pourrait exister. S'affranchir des normes qui posent problème. Éric Lenoir a sous-titré son livre « Apprendre à désapprendre ». Voilà, c'est, on peut dire, le geste initial du punk. C'est-à-dire utiliser, il le dit aussi, une connaissance de la nature plutôt que des connaissances techniques. C'est peut-être en remettant en cause la norme, essayer de chercher un bon sens plutôt que quelque chose d'hérité. C'est aussi se lancer, c'est-à-dire faire quand on ne sait pas encore faire. C'est évidemment là-dessus qu'il insiste. C'est utiliser du matériel de récupération, les outils et le mobilier. C'est créer une auto-pépinière pour stimuler la régénération, pour l'autonomie. C'est composter, évidemment, pour recycler. C'est bouturer un peu partout. Bouturer, ça veut dire prendre un morceau de plante pour refaire des racines, soit d'abord dans l'eau, puis après replanter, soit directement dans la terre. Et là, on est tout de suite dans quelque chose qui semble vraiment punk, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris comment ça marchait la bouture, on peut aller voler, entre guillemets, plein de plantes un peu partout. Ça veut dire justement squatter des jardins. Il y a le piratage des espaces marginaux. Il reparle de ce qu'on a appelé la guérilla gardening de Liz Christie et les fameuses seeds bombs qui sont en fait des modes de terre dans lesquels on met plein de graines qu'on a récupérées de plantes sauvages ou autres et à les balancer par-dessus les clôtures de terrain vague pour faire pousser quand même là où ça ne pousse pas. Et c'est évidemment cette idée de ensemencer les trottoirs, de pirater un peu l'espace public et l'espace dans les villes en y introduisant de la nature et des plantes. C'est évidemment l'idée des potagers partagés. Et c'est évidemment l'idée des potagers partagés sur les ZAD, par exemple. C'est là-dessus qu'on voit bien cette traduction du DIY en jardinage. Et c'est aussi des petits trucs pour emmerder le monde, comme il dit lui-même, c'est-à-dire protéger ce qu'on veut préserver. Par exemple, simplement, quand vous voyez un arbre qui est prêt à être coupé ou une plante qui est régulièrement taillée, placez des pierres à côté pour que la tailleuse n'y passe pas, que la tondeuse s'y casse. Ce genre de petites choses qui sont justement à la frontière avec d'abord la loi et puis les normes. Planter partout et ne pas croire toutes les interdictions, c'est aussi punk. C'est-à-dire, en général, beaucoup de choses sont interdites. Des pelouses, des endroits. Et je pense que ce qui est punk, c'est justement de dépasser ces interdictions, de passer à des endroits où on n'a pas le droit de passer. C'est essayer de refaire marcher son cerveau plutôt qu'un cerveau signalétique. C'est essayer de se débarrasser du nudge et de toutes ces petites choses qui veulent nous guider. Le punk, au jardin, il dit, en fait, on va réinvestir des espaces marginaux. Voilà, enfin, il y a, que ce soit sur les ZAD ou ici, dans ce jardin punk de Éric Lenoir, une volonté de partage. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi que le jardinage, c'est un plaisir et une possibilité d'apprendre et d'enseigner. Cette portée pédagogique, elle est, à mon avis, dès le début, très punk. Je pense que on insiste ici sur le DIY, parce que ça, c'est assez fondamental dans le punk, mais il y a évidemment une idée de transmission. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est de base, l'idée d'une transmission horizontale, c'est-à-dire à toi, à moi, et qui fait penser à toutes des expériences de transmission et d'enseignement qui ont lieu depuis très longtemps, mais par exemple dans le milieu anarchiste de la fin du 19e, Il y a l'idée que tu viens, tu sais faire quelque chose, et ben viens le partager, même si c'est pas quelque chose de spécialiste. C'est se lancer, même si on pense qu'on sait pas le faire. C'est exactement ça. Ensuite, par contre, il y a des choses qui apparaissent nettement moins punk. Et ça commence par la réception. Parce que ce livre, il a eu un certain succès. Et il y a eu des réceptions sur des radios, comme par exemple sur France Info, où à un moment donné, la présentatrice dit attention, le jardin punk, c'est pas l'anarchie. Si vous laissez la nature sauvage prendre le dessus, la balade sera beaucoup moins agréable. » Où là se pose tout de suite la question de l'intervention. Il y a évidemment cette opposition entre « attention, c'est pas l'anarchie », qui voudrait dire dans sa tête, c'est-à-dire faire n'importe quoi, et ensuite l'idée qu'il faut trouver quelque chose d'agréable. Ça pose question. Mais avant encore, il y a cette idée dont je parlais en introduction, que le jardin est regardé pousser les fleurs, au final, c'est pas très destroy. Bon, là-dessus, on peut l'écarter un peu, parce que d'abord, il y a inflexion des normes. Je pense que c'est évident au fur et à mesure des générations de punk. D'abord, les punks des premières générations se sont rendus compte eux-mêmes que pour beaucoup, ils n'étaient pas forcément urbains, qu'on venait déjà beaucoup de la campagne, des banlieues ou de la grande banlieue, et qu'on était tout aussi punk. Et du coup, il y a eu inflexion rapide au fur et à mesure. Et en plus, on l'a rappelé encore aujourd'hui, dès le début, il y a la présence des racines du punk, des réflexions véganes, de la libération animale, du straight edge. Et voilà, on peut rapprocher assez vite le punk de l'écologie, c'est certain. Faire fleurir les terrains vagues avec les six bombes, c'est plutôt destroy, et ça fait plutôt longtemps que les punks sont verts, et voilà, pour le jeu de mots, sont verts des terres. Voilà. Mais du coup, si cette pensée-là, écolo-punk, elle n'est pas radicale, est-ce qu'on n'est pas déjà dans une récupération ? Celui qui a préfacé la première édition, c'est le secrétaire général du groupe SNCF. Donc c'est déjà une surprise. Et en plus, il s'y vante d'avoir laissé pousser les mauvaises herbes autour des rails ou autour des panneaux électriques. Et on a bien l'impression que tout ça, au final, si c'est pas radical, ça ressemble un peu à du punk washing, si on peut utiliser l'expression. Mais il faut se méfier, parce que c'est la question de est-ce qu'on peut punkiser à dose homéopathique ? Juste un petit peu. Juste parce que ça fait bien, ou juste parce qu'on a compris qu'il y a une conscience qu'il faut avoir et que du coup, on reproduit. Du coup, savoir si on fait pas, si c'est pas total, est-ce que punkiser, c'est possible ? Il y a aussi quelque chose évident sur le principe même de jardin et de jardin privé. Parce que construire sa maison soi-même sur la ZAD, ça c'est punk. Par contre, construire sa tiny house sur son terrain privé, même tout seul, ça l'est beaucoup moins. Et je pense que là-dessus, il y a quelque chose d'important. On va y revenir, mais s'il peut y avoir des normes économiques et sociales du punk, c'est pas forcément là dans la provenance de ces acteurs. Je pense que les acteurs, c'est difficile de trouver une norme d'où ils viennent, de quel milieu social et économique. En revanche, je pense qu'il y a on est tous d'accord sur leur destination sociale. Je pense qu'on y revient tout de suite après, mais il y a, au-delà de la provenance, une idée de là où on veut arriver, ou ne pas arriver, justement. Et enfin, sur ces choses qui sonnent pas très punk au final, je dirais que c'est justement le fait même d'intervenir, d'avoir une volonté, un horizon esthétique qui peut être pas très punk. Il y a le fait de tailler un peu de côté, de traviole, parce que ça va faire un peu punk. Est-ce que ça, déjà, c'est punk ? Ça ressemble clairement pas à une démarche punk. Genre, si on plante, est-ce qu'il faudrait juste jeter les graines qu'on vient de recueillir sur une plante comme ça, sans y regarder, parce que ça, c'est punk ? Ou est-ce que le fait même de les planter en ligne, c'est déjà pas punk ? Et je pense que cette question des normes esthétiques, elle est énorme. Et je dirais que ça rapproche de quelque chose, genre, que ce soit au niveau... Genre, est-ce qu'il faut que ce soit plus beau que l'existant ? Est-ce qu'il faut forcer les choses ? à être comme on veut, parce qu'il y a l'idée ici de... Il récupère un rosier, par exemple, qui d'abord sont des plantes sauvages, ou un dahlia, et il va les re-rendre sauvages. Donc il y a l'idée d'ensauvager les plantes horticoles, et l'idée de magnifier les sauvageonnes, c'est-à-dire de laisser pousser les grandes. Mais ce fait même, en fait, de déplanter et replanter, est-ce que c'est punk ? On dit que dans le punk, en fait, tout le monde peut le faire. Mais est-ce que ce tout le monde, il inclut même les gens qui savent le faire ? C'est pas sûr. Ça se réfléchit. Je dirais même qu'il y a parfois dans le punk et dans la place du punk dans la société, quelque chose de la non-intervention des taoïstes, quelque chose qui serait du non-agir pour, par résistance, pour justement contrebalancer des normes. Le fait, même si le DIY insiste sur l'agir, est-ce que finalement le fait de ne pas agir, ce ne serait pas au final très punk ? Qui serait un peu un truc du genre « do nothing, mais do it yourself ». Voilà. Du coup, on peut essayer de se demander, si on n'a pas réussi à trouver, à juger sur les résultats, c'est-à-dire de réussir à définir clairement ça c'est punk, ça c'est pas punk sur un produit fini, sur quelque chose, on le sait très bien, on peut durer des heures et des heures de débat, savoir est-ce que ça c'est vraiment punk ou ça c'est pas punk. Si on ne peut pas sur un ensemble normé, si on ne peut pas trouver un cahier des charges du punk pour punkiser efficacement quelque chose, est-ce que par contre on ne peut pas trouver une méthodologie, une démarche ? Finalement, le punk, c'est se demander... Genre, tout à l'heure, on a parlé de cynisme. Je dirais que même le punk, au début, c'est un scepticisme. C'est de celui de se dire, en fait, de remettre tout en doute. Tout ce qui existe, c'est d'abord la première chose à faire, c'est le remettre en doute, c'est se demander pourquoi on fait les choses comme ça et pas autrement. Et surtout ne pas se contenter de la réponse de « c'est parce qu'on les a toujours fait comme ça ». Au final, il y a dans le punk la posture de l'apprenti qui, à l'atelier, le patron ou le maître de stage, blasé par les questions qui n'arrêtent pas, il lui dit « fais d'abord et tu réfléchiras ensuite ». Avec l'idée qu'en faisant, il va comprendre une espèce de règle immuable qui existerait avant. Là, il y a peut-être l'idée que pour le punk de ne pas y arriver, en fait. De ne pas réussir à faire les choses parce qu'on lui a demandé. C'est l'idée de se dire, mais si je l'ai fait à ma manière, pourquoi ça ne marcherait pas mieux ? Et voire même, en fait, cette idée que si je l'ai fait à l'arrache, ben, ça peut peut-être aussi marcher. Et cette question de ce personnage qui remet toujours en cause la norme et les lois existantes, elle me fait penser un peu à la figure du trickster, qui est un archétype en psychanalyse, développé par Jung à partir de 1943, qui retrouve dans toutes les cultures, dans tous les récits, un archétype, c'est-à-dire une espèce de figure qu'on retrouverait partout, qui est celle un peu du... Il appelle le fripon divin, c'est-à-dire c'est le bouffon, c'est le clown, c'est Loki dans les mythes nordiques, c'est le joker, c'est le coyote dans les mythes amérindiens. C'est la figure de celui qui, en détruisant, en remettant en cause tout créé, un peu par inadvertance, un peu sans le faire exprès. Mais c'est cette figure qui n'arrête pas de remettre en cause pour continuer à avancer. Il le ensuite décline, ça c'est au niveau sociétal, il le décline au niveau individuel et il l'appelle l'enfant divin. C'est en soi cette chose qui refuse l'ordre du moi qui domine et de l'adulte et qui va, pour pouvoir se renouveler et pouvoir grandir, toujours, en permanence, remettre en cause les normes. Moi, je trouve qu'on retrouve cette figure de l'enfant divin dans le vieux punk, qui pour moi, de je ne sais pas quelle génération, ces vieux punks ont été des figures, des modèles, bien sûr, parce qu'ils ils étaient là, la bière était trop tiède, on va rechercher une tireuse et finalement elle est trop froide, mais c'est cette figure-là qui sans cesse ne se contente pas du résultat, qui permet en fait de faire avancer, et peut-être le punk il est présent dans il est cet archétype-là, celui qui n'a pas de but, pas de sens, pas de règles autres que justement les remettre en cause. Et moi je pense, et pour rejoindre ce qui était dit tout à l'heure, que c'est une exigence. C'est pas du tout simple. Je pense qu'on ne choisit pas toujours d'être punk. Il y a sans doute des chemins qui sont aussi justement des chemins de vie et des chemins... Des fois, être punk, c'est parce qu'il y a un truc qui tourne dans la tête et qu'on n'arrive pas à l'apaiser et qu'on se sent différent dans une société normée. Et c'est parfois comme ça qu'on y arrive. Et c'est une vie semée d'embûches. C'est une vie qui parfois on paye cher. On a parlé de la drogue, mais là ici, je voudrais reparler de la destination sociale. Le secrétaire général de la SNCF, il ne pourra jamais être punk. Parce que je pense que dans les faits, il y a dans le punk une vocation du pauvre. Il y a, je pense qu'on peut le refus de se ranger qu'on retrouve dans les chansons, c'est aussi un refus de parvenir. Tel qu'il a été développé par Élisée Reclus, les géographes anarchistes, ou Albert Thierry, l'instituteur, ou bien plus récemment les écrivains prolétariens, il y a dans le punk un refus de parvenir, c'est certain. Ça ne veut pas dire un refus de réussir, ça veut dire un refus d'acquérir par ses capacités, dans une espèce de méritocratie, une place sociale, une place économique. Donc effectivement, un jardin punk qui peut être plus obligatoirement squatté qu'avoir un chez-soi, et quand bien même on voudrait le faire avec des outils punk, ce serait difficile d'y parvenir. Du coup, que ce soit d'un point de vue musical ou dans une conception plus large, qu'on est obligé de prendre en compte, évidemment, parce que c'est ce qu'on a dit depuis le début, que ce soit une éthique, que ce soit une démarche, une posture, le fait même, en fait, d'avancer dans la vie, de se présenter face à la vie en punk. Ça permet à l'individu de ne pas s'enliser dans l'inertie, dans l'immobilisme. Ça permet justement de grandir en se remettant sans cesse en question soi-même face à la norme, la norme face à soi-même. Ça impulse un mouvement. Et c'est d'ailleurs, j'ai l'impression, ce qu'on découvre graduellement, au fur et à mesure de la vie, quand on devient punk, c'est les endroits où on l'était déjà, et aussi les endroits où on ne l'était pas. Et à chaque fois, les endroits où on n'a jamais remis en cause la norme, on a fait des choses sans y réfléchir. Et pour finir, je dirais que, ouais, c'est une éthique, oui, c'est une éthique de résistance. Et je pense que, de la même manière qu'il a fallu, pour exister, trouver une chambre à soi, sans doute que pour résister, il faut trouver un punk à soi. Voilà, merci.
Bravo. Alors, merci beaucoup, Pierre, hein, pour cette communication hyper rafraîchissante qui montre bien, effectivement, comment le punk concentre, est un répertoire symbolique à mobiliser dans plein de pratiques et qui fait sens, qui a du sens et qui incite à questionner sur le sens des pratiques, ce qui explique bien, à mon avis, aussi le succès de ton livre, hein, qui fait que ce soit, que les gens se le soient forcément accaparés de cette manière-là. Ça explique bien que le punk, effectivement, fait sens. Effectivement. Est-ce qu'on a quelques questions?
Voilà, bonsoir. Je voulais savoir si, dans quel sens, est-ce que vous pensez que tout ce qui peut être, je pensais à Notre-Dame-des-Landes ou toutes les zones ZAD, etc., peuvent être considérées comme proches du punk, ou alors au contraire un peu trop normées ou organisées pour en faire partie? Parce que dedans, il y a des libertaires et des gens qui se revendiquent, qui peuvent se rendre comme libertaires. Voilà. Donc je veux savoir si, mais en même temps, il y a peut-être trop d'idéologie, donc Je voulais avoir votre point de vue.
Bah, dans les ZAD, il y a de tout, déjà. Et il y a des punks, ouais, sûr. Je pense que il y a sur les ZAD, mais comme dans plein d'endroits, dans le genre, oui, c'est difficile avec ces trucs de génération pour nous, parce que nous, on a grandi en étant punk, sans toujours se demander qui l'était avant nous. Du coup, je dirais que, oui, il y a une culture punk, ouais. Que ce soit, et ça c'est rigolo justement, que ce soit l'apparence, que dans les démarches. Ouais, il y a beaucoup de ça. Du DIY, la musique.
Moi je voulais faire référence à un jardin punk un peu particulier. C'est celui d'un cinéaste dont j'ai oublié le nom, mais peut-être que tu vas pouvoir me dépanner. Non, qui a fait son jardin au pied d'une centrale nucléaire, en ayant bien dans l'esprit d'associer le jardin à la toxicité du lieu. Et puis il a fait des films, plusieurs films sur la sensibilité punk. Voilà, je ne sais pas si tu connais cette position-là. Mais bon, c'était une position extrême, on va dire. Hein.
Ouais, c'est ça, mais on la retrouve ici. Genre, c'est-à-dire qu'il parle de Tchernobyl. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette idée, comme si en fait le punk il y avait cette inflexion que quelque chose de punk tout à coup serait laissé faire, de laisser pousser.
Peut-être une dernière question avant d'enchaîner. Philippe, alors.
Ce qui m'a intéressé aussi, c'est le parallèle entre le punk des villes et le punk des champs, si on veut dire. Et ça, c'était assez intéressant parce que j'avais là aussi la mentalité du punk des villes, jusqu'à ce que je connaisse finalement, dans ces dernières années, la nature, en fait. Donc tout ce que j'avais comme une idée préconçue, écologique, etc., du punk des villes, je me suis aperçu qu'elles étaient totalement fausses. En fait, même qu'elles étaient anti-écologiques, en fait, puisque le punk des champs, lui, vit dans la nature et connaît son milieu, quoi. Donc...
Ouais, je pense quelque chose de très intéressant là-dessus, ne serait-ce que sur les représentations, parce que il se trouve que moi, en l'étant, mais ne le sachant pas, j'écoutais la musique, j'écoutais du punk, et puis ensuite j'allais aux champignons, mais dans ma tête, j'étais punk urbain. Je veux dire, c'est très intéressant.
Je pense qu'on peut l'applaudir, Pierre. Bravo, merci beaucoup.